Chapitre 11. Le lendemain, Don Gallo alla, comme d'habitude, rendre visite à Sir Georges, visite qu'il considérait comme obligatoire en retour des prévenances qu'il en avait reçues. Le gentilhomme l'accueillit avec cette froide indifférence qu'il affectait envers tout le monde. Bien que contrarié par le grand événement du jour, Don Gallo n'en était pas moins fier d'avoir reçu le premier les confidences de Clémence. Aussi, à peine entré, dit-il à Sir Georges d'un ton important. « Savez-vous la nouvelle? Le dieu d'Hymen prépare ses couronnes. Quel est le beau front destiné à les porter ?»« Le front d'une de vos amies, » répondit Don Gallo, sans supposer le moins du monde l'intérêt que Sir Georges pouvait prendre à la chose. « Quel ami ?» demanda Sir Georges. « J'en ai tant à Séville. Je suis comme vous, Don Gallo, un serviteur des belles. Serait-ce par hasard l'intrépide veuve du colonel Matamoros ?»« Oh, non, non ! La novia est jeune, belle, spirituelle, sage et surtout bonne. »« Il y en a tant de jeunes, tant de belles, tant de spirituelles, tant de sages et tant de bonnes à Séville qu'à ce signalement, il me serait bien difficile de deviner qui elle est. » « Eh bien, reprit Don Gallo, la novia est notre aimable, notre chère Clémence. »« C'est faux !» s'écria Sir Georges avec colère en repoussant la table qui était près de lui. Il serait difficile de peindre la frayeur mêlée de surprise qu'éprouva Don Gallo à voir Sir Georges se dresser devant lui, le visage en feu, lançant des éclairs par les yeux, sans que le pauvre air sût à quoi attribuer ce subit emportement. « Qu'y a-t-il ? » pensait Don Gallo. « Serait-ce un de ces accès de spleen qui poussent quelquefois les Anglais à se tirer un coup de pistolet ? Voudrait-il un duel ? Jésus, si c'était là son idée ! Me voilà dans de beaux draps ! Quel terrible homme ! Allez donc vous compromettre avec de semblables ours ! » Mais non, se dit-il bientôt, revenant à sa nature pacifique. « Ce visage renversé indiquerait plutôt de la souffrance. » « Il est malade, tâchons de le calmer. » Puis, s'adressant à Sir Georges, « Je ne mens pas, milord, et croyez bien que je suis incapable de mentir à personne, surtout à un gentilhomme que j'estime autant que vous. Je tiens la chose de la propre bouche de Clémence. Elle n'en fait pas mystère, et si j'en parle, c'est qu'elle m'a autorisé à en parler. »« C'est elle qui vous l'a dit ?»« Oui, milord. » répondit Don Gallo en reprenant son calme et son aplomb, et je puis me flatter d'être le premier de ses amis que Clémence est honorée de cette confidence. J'ai commandé pour elle à Cadix un carnet de visite en filigrane, or et argent. Et, à ce propos, j'ai une grâce à vous demander, Sir Georges. Laquelle ? Demanda brusquement Sir Georges, qui avait hâte d'abréger la visite. C'est de ne pas en parler à Clémence. « Comptez sur ma discrétion, Don Gallo, » répliqua Sir Georges, devenu maître de lui, avec ce sourire ironique et hautain qui lui était habituel. « Mais, à mon tour, j'ai un service à vous demander. »« Parlez, milord, je suis à vos ordres. »« C'est de vous en aller. » Don Gallo, incapable de comprendre l'impertinente grossièreté de l'aristocratie anglaise, regarda Sir Georges d'un air stupéfait. Celui-ci demeurait impassible et son sourire devenait de plus en plus glacial. Décidément, pensa Don Gallo, le pauvre homme est malade. Voilà pourquoi il désire être seul. Je crois que si on lui tirait un peu de sang... Milord, dit-il tout haut, il me semble que vous avez le visage un peu rouge, vous n'êtes pas dans votre assiette ordinaire. Le sang fatigue beaucoup dans notre climat, surtout à l'approche du printemps. Auriez-vous mal à la tête ? « Je crois qu'une petite saignée et quelques tasses de guimauve pourraient vous faire du bien. » Ce que Don Gallo disait de la meilleure foi du monde ne sembla pas tel à Sir Georges, et il répondit sans hausser le ton. « Seigneur Don Gallo, préférez-vous sortir par la porte ou par la fenêtre ?» Don Gallo se leva comme s'il se fût trouvé assis sur des aiguilles. « Bonne santé, Sir Georges, » dit-il en prenant son chapeau. « Puissiez-vous être bientôt soulagé, c'est ce que je vous souhaite. »« Et moi, que le diable t'emporte !» murmura l'anglais entre ses dents. À peine Don Gallo eut-il dégringolé 4 à 4 les marches de l'escalier et se vit-il en sûreté dans la rue qu'il se frappa le front comme éclairé par une idée lumineuse. « Tiens, tiens ! Et moi qui n'avais pas pensé à cela, imbécile que je suis ! Une culotte à l'anglaise et des mieux ficelés, il aura déjeuné avec quelques compatriotes et cassé le cou à une douzaine de bouteilles de Xérès. C'est une mauvaise habitude, inconnue en Espagne, entre gens de bonne société. » Après ces réflexions, Don Gallo s'en fut chez Clémence, qu'il trouva seul. « Ouf ! » dit-il en entrant, « je viens de passer un mauvais quart d'heure. » « Au sujet de quoi ?»« Au sujet de Sir George et dans son propre appartement. »« Pour quel motif, mon ami ?» demanda Clémence, légèrement émue. « Vous voulez connaître le motif ?» dit Don Gallo avec le sourire mystérieux qui lui était habituel. « Je veux bien vous le dire, mais en confidence. »« Comptez sur ma discrétion. » « Eh bien, j'étais allé ce matin faire à Sir George une visite de politesse et je l'ai trouvé... » Ici, Don Gallo cligna de l'œil en souriant. « Dans un état... Vous comprenez ?»« Pas le moins du monde. » »« Dans un état où messieurs les Anglais se mettent fréquemment, c'est-à-dire complètement ivres. »« Ivres ? Cela n'est pas possible !» exclama Clémence. Ou gris comme un portefeuille, comme vous l'aimerez le mieux. » Et Don Gallo raconta dans tous ses détails la scène que nous connaissons. Clémence a compris tout. Elle n'était pas femme à se réjouir du dépit de Sir George, mais elle ressentit vivement la grossièreté de son procédé envers l'homme le plus inoffensif du monde et qui était son ami. Cette circonstance finit de l'éclairer entièrement sur la nature grossière d'un homme que l'éducation avait pu polir, mais qui manquait totalement de cœur. Après le départ de Don Gallo, Sir George, resté seul, parcourait à grands pas son appartement, en proie à la plus violente exaltation. « Joué, bafoué comme un enfant, se disait-il. Et par qui ? Par une femme qui a passé la moitié de sa vie dans un couvent et l'autre moitié dans un village. » Par une enfant de la nature, élevée par un moine, ascétique et sentimental, et moi, qui croyais être aimée d'elle. Quelle étrange chose que la femme espagnole! La meilleure n'est qu'une insaisissable couleuvre. J'ai offensé Clémence, je le confesse, mais n'ai-je pas imploré son pardon? Et elle n'a même pas voulu m'écouter, et elle accepte la main d'un autre, après avoir refusé la mienne. Quel sera cet autre? Son cousin Cortegana, peut-être, ce magot francisé, ou quelque autre pastor fido, cet imbécile de Don Gallo ne m'a pas dit le nom de cette revainqueur, comme il l'appelle. Imbécile, je regrette de ne pas l'avoir jeté par la fenêtre. Et cette femme, vraiment supérieure, allait de gaieté de cœur se renfermer dans un cercle vulgaire et mesquin. Oh, Clémence, Clémence, à tes côtés, je vivais, je renaissais. Tu répandais sur moi une bienfaisante rosée. Quel peut être ce mari qui a surgi si à propos pour me remplacer? Au fait, elle est remplie de préjugés, elle eût voulu faire de moi un papiste. Tout est donc pour le mieux, comme dit le docteur Pangloss, dans le meilleur des mondes possible. Sir George s'étendit dans un fauteuil auprès du feu, alluma un cigare qu'il ne tarda pas à rejeter, en s'écriant: « Il faut prendre un parti. Je ne puis rester à Séville pour devenir la fable de toute la ville. Allons visiter le Caucase. Allons à la recherche de l'inconnu, s'il en existe encore au monde. Un seul objet était capable de me retenir, il m'a échappé comme une ombre. Ma foi, consolons-nous. Ne croyez pas, belle dame, que vos dédains me fassent mourir de chagrin. Non, non, il est une chose préférable à tous vos charmes, et c'est ma douce liberté. » Pour vous posséder, il eût valu la perdre. Mieux vaut une déception qu'une chaîne. Tout est bien qui finit bien.